parler de la Lorraine. Voilà, on va parler de nos auteurs lorrains qui sont présents avec nous. Alors évidemment, donc on l'a dit, Marcel Cordier n'est pas encore arrivé, on espère qu'il viendra. Pirano, lui, vous présente ses excuses, hein, il a eu un empêchement de dernière minute qui l'a obligé à rentrer un peu plus vite que prévu chez lui. Mais on va quand même s'intéresser à ces auteurs lorrains qui sont avec nous. Et moi, je voulais d'abord donner la parole à Gilles Laporte. Parce que Gilles, toi, c'est en plus depuis quelques années maintenant, c'est une volonté vraiment de mettre en valeur le patrimoine lorrain que tu as. C'est quoi, c'est fier d'être lorrain?
Bonjour mesdames, bonjour ici. Oui, c'est fier d'être lorrain. Oui, je suis lorrain et j'en suis fier. Je suis né là, je vis là depuis toujours et j'espère que je serai là. Et c'est aussi, oui, c'est... Je réagis depuis toujours à cette méconnaissance qu'ont quelques Lorrains, pas tous heureusement, mais surtout qu'à la France de la culture lorraine. Le reste du pays ignore ou veut ignorer que la Lorraine a été l'une des régions, l'un des États, à l'époque où la Lorraine était un duché souverain et indépendant, le plus cultivé d'Europe. C'était le seul État d'Europe au début du XVIIe siècle dans lequel les femmes étaient capables de signer leur contrat de mariage, de leur nom, et non pas d'une croix, le seul. Je le disais hier autour d'un autre café littéraire que c'est la région de cette Europe occidentale que Montaigne a découverte avec beaucoup de surprise comme étant l'un des pays les plus riches qu'il connaissait, puisque ce pays était construit de maisons qui étaient toutes équipées aux fenêtres de vitres, alors que partout ailleurs c'était du papier huilé, du carton. Donc, oui, la Lorraine avait une belle culture, un beau patrimoine, qui a été ruiné complètement notamment par Louis XIV, et ensuite par les guerres mondiales qui se sont succédées et étaient en première ligne. Et il en reste peu, et c'est parce qu'il en reste peu, justement, de ce patrimoine et de cette culture, que j'essaie d'en faire les personnages principaux, quasiment, de tous mes romans historiques.
Par l'évolution aussi des sociétés, parce que on le sait, le textile aujourd'hui est en grande détresse, la papeterie a des soucis également, bref, les grandes industries, je ne parle même pas de la sidérurgie si on monte vers le nord, etc. Bref, tout ce qui a sous-tendu cette économie et cette puissance de la Lorraine, disons-le comme ça, aujourd'hui, est quand même très très affaiblie.
Oui, bien sûr, la Lorraine a été, au XIXe siècle notamment, a été le grand moteur économique de la France. Par sa sidérurgie, par son textile, par sa papeterie, tu viens de le citer tout ça, elle avait une industrie qui était l'industrie la plus puissante. Elle avait des ramifications jusque quelque part en Bourgogne, le Creusot était une antenne des Vindelles, par exemple, donc et des Dietrich. Donc il y avait toute une infrastructure industrielle, artisanale, on peut parler du verre, du cristal. La verrerie lorraine n'a pas d'autre concurrent ailleurs en France.
Donc, oui, mais est-ce que les Français savent que Baccarat est en Lorraine?
J'en sais rien, je crois pas. Pas tous. Par obligation professionnelle, j'étais amené pendant une vingtaine d'années à participer à des salons nationaux professionnels, et notamment dans le domaine touristique. Et c'était très très fréquent, il était très très fréquent que des gens viennent pour nous dire « je voudrais aller à Colmar ou en visite à Kaisersberg ». Je répondais « c'est pas chez nous ça, c'est en Alsace ». Ben, vous êtes quoi, la Lorraine? C'est pareil. Donc, mais c'était habituel. Donc il y a, oui... une sorte d'oubli de ce qu'était la Lorraine et qui est renforcée par ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, ce qui est renforcé, ou c'est la méconnaissance qui est renforcée, parce que non seulement la Lorraine n'a pas une image très forte, mais l'image qu'elle a est une image en plus très souvent négative. Pour la plupart de ceux qui ne connaissent pas la Lorraine, qu'est-ce que c'est? C'est les cimetières militaires, les friches industrielles, c'est maintenant l'Ilou. Les loups qui sont revenus, alors on chasse le loup. C'est alors, comme le dit notre ami Claude Vanoni, il y a deux saisons en Lorraine, hein, il y a l'hiver et le 15 août. C'est ça la réputation de la Lorraine. Donc, elle, non seulement elle n'a pas une image aujourd'hui forte de régions connues et reconnues, mais elle a une image négative entre laquelle il faut réagir. Alors, tout ça renforce mon envie, c'est plus qu'une envie, mon besoin naturel de parler de la Lorraine, mon pays que j'aime beaucoup. J'aime tous les autres aussi, hein, mais celui-là plus particulièrement, et surtout de son patrimoine qui est en train de se casser la figure. On peut parler des ArcelorMittal aujourd'hui parce qu'ils tiennent, c'est l'actualité, mais je crains le pire pour Baccarat. J'ai encore passé là plusieurs semaines aux côtés des verriers à parler avec eux de leur engagement professionnel, de leur passion, de la qualité de leur être, de leur être profond. Pour faire ce boulot, il faut vraiment avoir... Mais en même temps, de leur crainte, ils sont devenus, depuis quelques années, la propriété d'un fonds d'investissement états-unien qui a déjà liquidé quelques collections emblématiques de Baccarat, de la production, et qui, ils s'y attendent, le jour où les actionnaires états-uniens auront l'impression que le rendement financier n'est plus ce qu'ils attendaient, ils liquideront, comme ils ont liquidé le Jabi, comme ils ont liquidé toutes les autres boîtes dont ils sont propriétaires uniquement pour faire du fric pour les actionnaires. Donc Baccarat, aujourd'hui, craint ça. Et je crains que dans les 3, 4, 5 ans qui viennent, on apprenne qu'il y a un plan social à Baccarat. C'est pas... Voilà, donc c'est ça l'histoire de la Lorraine depuis que Louis XIV s'est acharné contre elle. Aujourd'hui, ce sont les grands investisseurs, les grands magouilleurs financiers internationaux qui ont jeté leur dévolu sur quelques entreprises emblématiques de notre pays. Et il est important, je crois, qu'on se mobilise pour faire en sorte qu'on sache encore qu'il y a des gens qui savent travailler, bien travailler, et qui savent produire de beaux produits en Lorraine. Donc c'est la raison pour laquelle j'écris ce genre d'ordre.
Élise Fischer, cette Lorraine qui vous tient tant à cœur, c'est une partie de vous, finalement, dont vous nous parlez à travers elle?
Je sais pas. Je sais pas. J'ai pas.
Vous pensez que vous écririez de la même façon si vous étiez né en Provence, en Bretagne?
Je sais pas. J'écris avec mes racines. Donc, j'écris. Mes racines, elles sont en partie lorraine, en partie alsacienne, parce que moi, je suis. Je fais le grand écart.
Oui. Dites à Gilles Laporte qui raconte des méchancetés.
Non, pas du tout, pas du tout. Mais je pense que quand le reste de la France... Mais non, c'est pas une méchanceté. Quand le reste de la France ne sait pas que Nancy, c'est en Lorraine et que Colmar est en Alsace, c'est parce que c'est une... je ne vais pas dire une tradition, mais en France, on ne connaît pas sa géographie. Je dirais que de la même manière... quand on parle de la Bretagne, bon, on sait que c'est de l'autre côté à l'ouest, mais entre la Vendée et la Bretagne, on ne sait pas, alors que c'est pas du tout pareil. C'est un peu les mêmes choses. On connaît mal nos géographies. Moi, je suis très fière d'avoir un pied en Lorraine. Alors, j'ai plus un pied en Lorraine qu'en Alsace, parce que je suis née en Lorraine, j'ai grandi en Lorraine. Et l'Alsace, bah, ma foi, c'était... Les grands voyages de fin d'année avec l'école, ou de temps en temps aller voir une cousine qui habitait encore là-bas, mais c'était très peu souvent, on ne voyageait pas beaucoup. Ça s'est fait à partir de l'âge de 15-16 ans. Mais j'aime la Lorraine, j'aime l'Alsace, et c'est vrai qu'à Paris, c'est un pouvoir centralisateur, et tout ce qui est ailleurs, on l'aime beaucoup moins, et je suis d'accord avec ce que dit Gilles, depuis Richelieu, même je vais faire remonter avant Louis XIV, la guerre de 30 ans avait été terrible, et Louis XIV en a mis de louche. Faut dire qu'à cette époque, Louis XIV avait déjà fait en sorte que Strasbourg soit française, pas Mulhouse, hein, parce que Mulhouse était rattachée à Bâle, mais Strasbourg c'était le plus beau jardin pour lui de la France, et ça embêtait beaucoup Louis XIV d'être obligé de passer par un duché indépendant pour aller dans des possessions françaises.
Et oui, il avait Strasbourg au nord et Neuf-Brisach au sud.
Et voilà. Et entre les deux, il y avait cette terre. Et les Lorrains, vraiment, étaient des gens qui résistaient. Ils ne résistaient pas farouchement en relevant la tête. Ils ne disaient rien, mais les petits coups en douce, ils les faisaient, ils n'avaient pas du tout. Et c'était le cas surtout à Épinal. À Épinal, on signait qu'on était avec le roi de France. sitôt que le roi de France avait tourné le dos, hop, à Épinal, on retournait à son indépendance. Et c'est vrai que le roi n'aimait pas du tout. Non, moi j'aime beaucoup ma Lorraine, j'écris avec mes racines. De la même manière, les savoir-faire, j'ai essayé de les défendre. Quand on me l'a demandé, un éditeur parisien me l'avait demandé, mais j'avais commencé à écrire chez Fayard. Mais déjà à l'époque, toutes mes histoires, même si ça n'était pas sur les savoir-faire, hein, quand c'était la colère de mouche, le dernier amour d'Auguste, l'inaccompli, mais tous mes personnages étaient des gens nés en Lorraine, et ça se passait en Lorraine et dans les Vosges.
Et comme Gilles, il y a aussi les savoir-faire avec votre colporteur.
Bien avant, avec la brasserie de champignons.
Oui, voilà, exactement.
Oui, Donc, c'était une demande. Je ne pensais jamais, alors je vais vous dire, je ne pensais jamais être conduite à écrire sur les savoir-faire. Et puis un jour, un coup de fil, je vous ai lu, j'ai vu que vous écriviez sur votre région, vos personnages, si... Est-ce que vous accepteriez de me parler des savoir-faire de votre région ? J'ai déjà un auteur masculin, mais je voudrais une plume féminine. C'est exactement comme ça que Madame Ballant, des Presses de la Cité, m'a recrutée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux faire ? Mon père était sidérurgiste, Monsieur Caffier avait déjà fait le hameau des Mirabelliers, et c'était Pompée. Moi, je me voyais faire Pompée. Et comme il l'avait fait, j'allais pas recommencer. Et puis, franchement, j'allais lui dire non à cette dame. Et c'est au moment du dessert que tout d'un coup, je me suis dit, mais est-ce que la bière, ça peut intéresser cette dame ? Parce que je suis née, moi, pas à la maternité de Nancy, mais à la maison, à 50 mètres des brasseries de Champignonne. Donc j'ai dit, je peux peut-être essayer de faire quelque chose sur les brasseries, parce que mes cousines, tout ça, tout le monde y est allé. Moi, j'y étais jamais allée travailler pendant l'été. Je peux essayer de faire ça. Et c'est comme ça que la passion, je vais dire, m'est venue pour les savoir-faire, parce que c'est un drôle de boulot d'écrire sur les savoir-faire. Faut enquêter, faut interviewer, faut plonger dans les archives. Et j'ai trouvé ça passionnant. Voilà. Et après ça, il y a eu les dômes, les alliances de cristal. Après, il y a eu le colporteur. Après, il y en a eu d'autres. Mais c'est au fond parce qu'un éditeur me l'a demandé. J'avais pas cette veine en moi. Ce qui m'intéressait plus, c'était la veine des Lorrains, des personnes qui vivent en Lorraine. Pourquoi elles sont si la tête baissée? Pourquoi elles n'osent pas être fières? Pourquoi Et après, j'ai compris, en écrivant sur les savoir-faire, pourquoi on était si modeste en Lorraine, à tort.
Frédéric Volo, même exercice. La Lorraine est aussi au cœur de vos deux romans. C'est aussi quelque chose qui vous importait de choisir cette région qui est la vôtre comme cadre de vos romans?
Alors moi, je parle dans mes romans de la Meurthe-et-Moselle, qui est le département où je vis maintenant, alors que je suis née, contrairement à Élise, je suis née dans l'eau, puisque je suis née à Vittel. Donc pas dans la bière, mais ça ne m'empêche pas d'aimer la bière malgré tout. Surtout celle de Champignol. Et donc, oui, moi j'ai toujours aimé l'histoire et j'ai toujours aimé comprendre... aimer ces savoir-faire qui ont disparu. Là, dans ce roman, L'honneur de Blanche, je parle du papier mâché de Pont-à-Mousson que j'ai découvert dernièrement. Je ne savais pas qu'il y avait une industrie très importante au XIXe siècle sur le papier mâché. Et donc, j'ai voulu remettre ce savoir-faire à l'honneur. Et non seulement pour moi, c'est passionnant de plonger dans cette histoire, dans ce passé, dans cette vie des petites gens qui ont fait tout ce travail fantastique. Alors non seulement moi ça me permet de connaître, mais en plus j'ai le plaisir de partager, de faire connaître, de faire découvrir aux autres lecteurs quelque chose qui a disparu à l'heure actuelle. Donc c'est ça que j'aime transmettre, les traditions, des savoir-faire, des émotions par ce biais-là, des caractères aussi de personnes. Bon, le père Voirneau, c'était un abbé, là, il n'y avait pas vraiment un savoir-faire, mais c'est une personne qui a compté en Lorraine, même si aujourd'hui, il est complètement passé dans l'oubli. Donc, j'aime bien faire, moi, ressortir des choses soit qui n'existent plus, enfin un passé oublié, ou alors des personnes qui ont compté et qui, qu'on a complètement oublié, qui étaient aussi peut-être des mal-aimés. J'ai toujours bien aimé parler des gens qui étaient un petit peu rebelles et qui sont passés dans l'oubli comme ça. Mais ce qui m'intéresse par-dessus tout, moi, c'est de comprendre. Mon rêve, ça serait d'avoir une machine à remonter le temps et qui puisse me permettre d'aller dans toutes les époques et de voir ce qui s'est passé, pas de pouvoir intervenir parce qu'on ne peut pas changer le passé, mais de voir ce qui se passait et de comprendre le pourquoi du comment. Voilà. Alors ça, c'est vraiment ma grande quête. J'adorerais avoir ce genre de machine. Là, je serais tout le temps dedans et j'irais voir comment se passaient les choses et comment vivaient les gens. Et donc, cette quête de comprendre ne me cantonne pas forcément à la Lorraine. Le prochain livre sur lequel je travaille actuellement se passera à Paris, sous le Second Empire. Donc, je marche en fait par passion. Je découvre tout d'un coup quelque chose dans mes recherches qui ça fait tilt, ça me parle et je me sens tout d'un coup passionnée pour tel ou tel sujet, par telle et telle époque, et j'ai envie d'en parler. Donc la Lorraine, oui, parce qu'elle me tient au cœur, j'y suis née, que j'aime profondément cette région, j'aime les gens qui la font, je suis de tout cœur avec tous ces ouvriers, toutes ces petites gens qui ont façonné cette région, les sidérurgistes, etc. Mais ça ne m'empêche pas d'aller piocher, d'aller voir ce qui se passe ailleurs et toujours dans un but de comprendre. Voilà, de comprendre.
Est-ce que vos lecteurs, quand ils viennent vous voir, quand ils viennent discuter avec vous, vous disent « mais vous m'avez appris quelque chose sur ma région ?»
Oui. Oui, ça ils le disent et c'est très gratifiant parce que non seulement moi j'ai appris énormément de choses, mais en plus c'est formidable quand on vient vous dire ah ben j'ai découvert telle ou telle chose. Pour le dernier roman notamment, beaucoup de personnes, à commencer par moi, je ne savais pas qu'il y avait une industrie comme ça de papier mâché à Pont-à-Mousson qui a exporté dans des familles, dans des grandes maisons princières d'Europe et du monde entier.
Et parce qu'on fait des meubles avec le papier mâché. Hein.
Bon, c'est des meubles, des meubles, des lits, des chaises, des buffets, enfin vraiment des choses extraordinaires. C'était vraiment des œuvres d'art. Et j'ai découvert ça, c'était laqué avec des petites, avec de l'ébène, avec de l'ivoire, de l'or, de l'argent, de l'étain. Et c'était, ça allait beaucoup en Russie, en Angleterre, dans toutes ces grandes maisons très riches. Et malheureusement, ça a disparu avec l'avènement du plastique.
J'ai fait beaucoup de boulettes, moi, avec du papier mâché.
Oui, parce que le papier mâché, on se souvient à l'école, on faisait des petits trucs en papier mâché, on faisait des petits récipients, des petits bols, des petites choses comme ça en papier mâché. On s'amusait bien quand on était enfant.
Mais c'est le papier la fête mâché, des mères en plus aujourd'hui.
Voilà, c'était pour la fête des mères, bien souvent, fabriquer des petites choses en papier mâché. Mais j'étais loin de me douter quand j'ai découvert ça qu'on faisait ce genre de choses à Pont-à-Mousson. En plus, Pont-à-Mousson, je ne sais pas pourquoi, mais c'est une ville que j'aime beaucoup. Ça doit être ses arcades, ça doit être la place du Roc, son histoire, ses prémontrés, l'université. C'est une ville très très riche d'histoire et là aussi j'ai voulu mettre un coup de projecteur sur cette ville qui le mérite, qui a eu sa place dans l'histoire, qui a beaucoup compté, qui malheureusement aujourd'hui a tendance un petit peu à péricliter, à cause de Nancy notamment, qui lui a piqué beaucoup de choses, notamment l'université.
Voilà.
Gilles Laporte, Frédéric disait que c'était très gratifiant d'avoir des lecteurs qui viennent vous voir en vous disant que vous leur avez appris quelque chose, mais si on renverse un peu cet aspect-là, est-ce que c'est pas inquiétant aussi finalement de se rendre compte que les Lorrains ont oublié un peu leur patrimoine ?
Est-ce que c'est pas inquiétant ? Non, c'est la conséquence de l'évolution de l'histoire.
Je ne mets pas une notion de culpabilité dedans, mais simplement de voir que l'évolution finalement de l'histoire fait que...
On retrouve ça dans les autres régions.
Oui.
Oui, on retrouve ça dans d'autres régions, mais d'autres régions ont gardé une mémoire beaucoup plus vive de ce qu'était leur culture, parce qu'elles ne sont pas passées sous les rouleaux compresseurs.
Parce qu'on n'ose pas, on sait en Lorraine, mais on n'ose pas dire.
Parce qu'on a été contraint de ne pas oser dire.
De ne pas oser dire qui est-elle maître, de tel côté du Rhin ou de l'autre côté. C'était ça.
C'est ça, c'est l'histoire qui explique ce comportement des Lorrains qui n'osent pas tout à fait dire qu'ils sont fiers de leur pays et que leur pays est un pays de grande culture, de belles traditions, un pays à l'histoire qui mérite...
C'est le centre de l'Europe quand même.
Oui, et puis si on veut aller plus loin, si on veut... Aujourd'hui, je suis particulièrement fier dans cette Europe en construction, avec beaucoup de difficultés, vous savez aussi bien que moi, de me souvenir, et je le redis régulièrement lorsque j'en ai l'occasion, la preuve, je le dis encore aujourd'hui, que l'idée européenne est une idée lorraine. Elle n'est pas née à Bordeaux, ni à Paris, ni à Lyon, ni à Marseille. C'est Jean de Pange, le premier, qui a émis cette pensée. Que l'Europe fédérale pouvait exister, il a été repris par Schuman, et c'était Monseigneur Otto de Habsbourg-Lorraine, le dernier duc de Lorraine, mort en juillet dernier d'ailleurs, qui me rappelait souvent que le général de Gaulle, s'il avait choisi la croix de Lorraine comme symbole, un, de libération de la France, deux, ensuite, de construction européenne, c'était pas pour rien, c'était bien pour rappeler que la Lorraine était au cœur de cette démarche-là. Donc, oui, c'est tout ça, mais ou que les Lorrains ignorent ou qu'ils n'osent pas mettre en avant.
Je pense qu'ils n'osent pas.
Qu'ils n'osent pas mettre en
avant. Quand Élise parle des deux rives du Rhin, on est en plein dans Cantate de Cristal. Parce que c'est aussi un des aspects du livre.
Mais,
c'est
oui.
Que Florent tombe amoureux d'une Allemande.
Oui, moi j'aime bien construire des, si c'est pas des ponts, des passerelles. Le Loup de Métandal, par exemple, j'avais créé un personnage dont j'avais imaginé qu'il était né en Alsace, il était alsacien d'origine, et il était juif. Et il avait choisi, parce que ça avait été le choix d'un nombre très important d'Alsaciens ou de Lorrains du Nord, il avait choisi, parce qu'ils avaient eu la possibilité de choisir, parce qu'en 71, ils avaient un an pour choisir, ou de devenir prussien en restant en Alsace ou en Lorraine du Nord, ou de rester français, mais dans ce cas, il devait émigrer.
Et parfois très loin, jusqu'au Pays Basque.
Donc le mien d'Alsacien, il refuse la vote prussienne, il décide d'émigrer et il va s'installer en Lorraine, à Rambervillers, la première petite ville qui est sur sa route pour venir vers Nancy. Donc il s'arrête là. Et il s'installe. Donc c'est une passerelle là, entre cet Alsace meurtri qui devient l'un des pays les plus soumis à la vote prussienne et la Lorraine restée française. Et puis dans la fontaine de Jérémois, dans le Cantat de Cristal, j'ai encore une fois inventé un personnage qui n'est pas alsacien, mais je cherchais un peu plus loin encore, en Saxe, et à la même époque, à l'époque où, justement, après la guerre de 70, il est mal vu d'avoir, en Lorraine restée française, d'avoir un Allemand ou une Allemande. Or, elle est saxonne, oui.
Oui, donc, continue, mais je le dirai après.
Bon, elle est saxonne, elle arrive en Lorraine parce qu'elle a épousé le sous-directeur de la cristallerie. Et qu'elle vient s'installer là avec son mari. C'est une autre manière, un autre clin d'œil que je fais à l'histoire. C'est une sorte de passerelle fraternelle entre des gens qui ont été opposés par des imbéciles fous de pouvoir. Hein.
On ne peut pas révéler la fin du livre, mais non. C'est vrai qu'elle va trouver une façon finalement de leur montrer qu'elle est. Qu'elle fait partie de leur communauté à part entière.
Mais bien sûr.
Et de façon magnifique, vraiment.
Bien sûr. Alors, il y a un, parce que c'est un être généreux et qui est très imprégné d'art lyrique notamment. Elle est passionnée par Bach, les cantates de Bach et les leaders. Et elle a transporté cette passion en Lorraine. La Lorraine qui est sensible parce qu'elle a toujours été orientée vers l'Est. Hein. Ne l'oublions pas, la Lorraine est. Et pour toujours porter ses regards davantage vers Vienne et l'Autriche, par exemple, l'histoire là aussi l'explique, vers Paris. Donc elle a apporté cette passion chez nous, et puis aussi parce qu'elle est femme. Et la femme est largement au-dessus, au-delà, en dehors de ces querelles de mâles qui se bagarrent pour le pouvoir, quel que soit le pouvoir, pouvoir partisan, pouvoir d'État et de nation. Hein. La femme est au-delà de ça. Donc, c'est pour cette raison que j'ai choisi ce personnage. C'est notre forme de passerelle.
Alors, j'ai vu que Élise et Frédéric voulaient réagir. On va commencer par Élise d'abord.
c'était un mot, les histoires de passerelles, puisque pour Baccarat, on est dans le cristal, les dômes qui se sont installés à Nancy, c'était aussi des gens qui, en 71, ils étaient du pays de Bitche, en Moselle, n'ont jamais voulu être sous la botte prussienne et ont choisi de venir en Lorraine francophone, d'où la richesse. Ça a été la richesse de la Lorraine francophone, tous ces ou Mosellans ou Alsaciens qui avaient choisi la France et ils ont opté pour la France.
Mais le rayonnement de Nancy.
C'était pareil pour les Assyries de Pompée.
Oui, bien sûr.
Oui, c'était ça.
A été le résultat de cette immigration
des
Lorrains
c'est
du Nord et des
Alsaciens,
et dans tous les domaines, en médecine, en psychologie, l'école de psychologie.
Oui, Freud et
avec le docteur Bernheim.
Oui,
Bernheim,
tout à fait.
Pas un ancien d'origine. Donc oui, ce qui a fait la richesse
de la Lorraine,
et de Nancy en particulier au 19e, c'est cette immigration du Nord Mosellan et d'Alsace.
Voilà, et c'est ce qu'on veut raconter dans nos livres.
Mais bien sûr.
Voilà.
Alors je voulais, oui, vous avez dit cristal, etc. Le papier mâché aussi, les hâtes sont d'origine allemande.
Et ben voilà.
Et ils ont refusé la soumission prussienne. Ils sont venus s'installer à Pont-à-Mousson, qui était la ville frontière. Simplement, par rapport à tout à l'heure, je voulais juste ajouter qu'en Lorraine, alors est-ce que beaucoup de personnes en sont conscientes, mais en Lorraine, on a tout pour vivre en autosuffisance et on pourrait être totalement indépendant. On a tout dans tous les domaines. On a le bois, on a le cristal, on a les couverts, on a la bière, on a l'eau.
On a la faïence à Lunéville,
qui est
comme le cristal à Baccarat.
Voilà.
C'est difficile, hein. La corde raide.
Oui, c'est très difficile, malheureusement. On a les faïences, enfin, on a le textile, on a de quoi faire pour s'habiller, on a tout,
les
absolument tout. On a les émaux, oui. Donc, on pourrait vivre en autosuffisance et on pourrait faire vivre notre industrie. Mais alors, est-ce que c'est peut-être ça aussi qui dérange un certain pouvoir? Et qui cherche à diviser pour mieux régner, parce que finalement, moi, ce que je regrette en Lorraine, d'après ce que j'ai connu et ce que j'ai vu, c'est qu'il n'y a jamais eu une dynamique, une synergie entre tous ces savoir-faire. Tout le monde travaille dans son coin, mais hélas, je regrette qu'il n'y ait pas une synergie entre tous ces savoir-faire. Lorrain, et je pense que s'il y avait une union.
Il faut dire que les quatre départements ne s'entendent pas forcément.
C'est ridicule, il serait temps quand même de
passer à autre chose. Il y a des tentatives quand même avec le sillon Lorrain, Nancy, Metz, Luxembourg.
Quand on a un président de région Lorraine qui dit que Épinal est le cul-de-sac du sillon Lorrain, est-ce qu'il fait vraiment avancer les choses?
ayant travaillé en Moselle, les Vosges étaient complètement. On se demandait où ça se trouvait.
C'est pareil, on met la Meuse de côté.
Alors
de
là,
côté,
la Meuse, c'était même pas la peine. C'était un ersatz.
Et puis les deux autres, c'est la guerre de coq entre Nancy et Metz.
Nancy et Metz, il n'y avait pas d'entente. Mais ça, c'est regrettable pour cette industrie, pour ce savoir-faire lorrain qui est en train de crever, tout simplement, à cause de bêtises, de politique, d'égo mal placé.
Ce qu'on retrouve aussi, justement, c'est ces thématiques-là dans le Ruchier du Père Vorano, parce qu'on voit très bien comment ce village qui vit tout à fait tranquillement, sans problème, va d'un seul coup pâtir des décisions parisiennes et de l'arrivée de cette politique nationale, finalement, dans le village.
Complètement, oui. Ce village qui était quand même réputé, Villers-sous-Prémis, près de Pont-à-Mousson, était réputé quand même pour avoir des habitants pas très commodes, et plutôt avec un caractère difficile. C'est pour ça que l'abbé Voirneau avait été envoyé là-bas pour les remettre dans le droit chemin. Mais c'est vrai que le maire et le conseil municipal s'étaient résolument tournés vers la France, vers Paris, et donc c'était des républicains purs et durs qui étaient des anticléricaux, et donc suite à ça, le village s'est divisé en deux. Il y avait les anticléricaux, les cléricaux, et effectivement c'était pire que Don Camillo et Pépone. Dans Don Camillo et Pépone, on rigole. Mais dans la réalité, à cette époque-là, c'était beaucoup plus dramatique. Parfois, ça finissait très très mal. Et là, en l'occurrence, on ne peut pas dire que ça finisse très bien.
Oui, Lise. Oui, tout ce que vous venez d'entendre, voilà, j'imagine que vous êtes entièrement en phase avec tout ça, mais dans les aventures, si je puis dire, de la grenouille, on retrouve quand même...
C'est un peu différent, les aventures de la grenouille.
Oui,
de
mais
la
grenouille.
C'est une petite Lorraine qui essaye de mettre la tête hors de l'eau, si je puis dire.
Bah, allez-y, tiens, justement, parlez-nous-en, justement. Est-ce qu'elle n'est pas l'exemple même de ce que vous souhaiteriez, c'est-à-dire finalement d'une Lorraine qui se tienne droite, qui affronte les choses, qui les revendique.
Oh, t'as quand même des mots difficiles, droit et front, ça m'embête. Hein. D'une Lorraine dont on soit fier, c'est une petite fille qui a une maman qui est alsacienne, qui manie parfaitement la langue de Goethe et la langue de Molière, on va dire. Elle a un mari, lui, qui est un ouvrier qui déchiffre tout juste l'Est républicain. Et la grenouille, là-dedans, elle a des rêves. D'autant plus qu'elle sait qu'elle a eu une grand-tante qui a travaillé à la cour du tsar, ça c'est vrai. Alors, ça fait rêver avoir une grand-tante qui a travaillé à la cour du tsar et qui était affectée au service de la princesse Anastasia. Alors, j'ai demandé à une cousine germaine qui a plus de 80 ans si c'était vrai, parce que je croyais que c'était une légende familiale. Et Yvonne, qui vit dans une maison de retraite à Champignol, m'a dit « Mais si, c'est vrai !» Et quand elle est revenue pendant la guerre de 14-18, elle est revenue en 17, avant que le tsar soit démis et puis que toute la cour soit exécutée, elle nous avait rapporté des petits cadeaux. C'est-à-dire, moi, j'ai eu les robes, donc elle est née après, puis elle est venue jusque dans les années 50, chez ma tante, la sœur de papa, moi j'ai eu les robes de poupée de la princesse Anastasia. Mais quand j'étais petite fille, me dit Yvonne, et qu'a éclaté la guerre de 39-45, elle avait très peur des Allemands, comme les Russes avaient très peur des Allemands, et elle a dit à ma mère, Adèle, brûle tout, parce que les Boches arrivent, toi, ils vont te couper les seins, et aux filles, tes filles vont les violer. C'était terrible. Donc elle dit, j'ai vu ma mère brûler les choses dans le caniveau et il n'est resté qu'une ou deux photos. On a une ou deux photos de cette tante avec la famille impériale. Ça sera pour le volume 3. On mettra sans doute la photo. Alors ça, c'était fabuleux. Donc ma petite fille, si vous voulez, elle essaye de devenir une dame comme la tante de Russie. Elle fait jouer ses copines à la tante de Russie, les copains aussi. Et puis elle est amoureuse du théâtre et elle voit le monde qui se développe. C'est juste les 30 glorieuses. Elle voudrait réussir sa vie. Soit elle serait institutrice, soit elle ferait du théâtre, soit elle serait surtout journaliste, parce que c'est l'époque de la guerre d'Algérie, on est dans les événements et elle veut être le témoin. Donc cette petite fille, elle est Lorraine, mais elle aurait pu être pour le cas en Bretagne ou ailleurs. C'est pas spécial à la Lorraine.
Mais elle a peut-être un caractère différent ou plus affirmé, finalement.
Elle est têtue, comme une brique, ça c'est sûr, comme les Lorrains, oui. Tête de bois.
Gilles Laporte, il y a aussi la volonté dans tes ouvrages de mettre en valeur aussi les personnages qui ont réellement existé. On a parlé des personnages de fiction pure, mais c'est aussi... des hommages à ceux qui ont instillé ces savoir-faire.
Oui, c'est une manière aussi de faire connaître ceux qui sont à l'origine d'un esprit qui était neuf à l'époque, mais un esprit qui dure aujourd'hui encore, et que j'ai envie de faire davantage connaître, comme j'ai envie de faire davantage connaître le patrimoine lorrain. C'est par exemple dans La Fontaine de Jérémois. C'est d'abord, chronologie, on va la respecter, dans le Loup de Métendal, c'est Alphonse Sitter, cet homme qui, venu d'Auvergne, prend prend en main la direction de l'usine de céramique de Rambervillers. Et il va y injecter, c'est une boîte qui est très industrielle, qui fabrique des tuyaux de grès, vernissés pour l'abduction d'eau et pour les égouts. Et il va y injecter sa créativité, il va en faire une entreprise dans laquelle les artistes auront leur place. Et ça m'a passionné. Parce qu'on peut bosser dans l'industrie, mais sans pour autant abandonner toute sa créativité, sa créativité et son besoin de faire des choses belles. Et puis, il y a dans La Fontaine de Jérémois la personnalité du fondateur, du créateur de la station thermale de Vittel, Louis Bouloumier, qui était un avocat très célèbre de Rodez, journaliste réputé, il avait une carrière superbe qui s'ouvrait devant lui. Il avait soutenu Louis-Napoléon Bonaparte à l'époque où il avait publié L'extinction du paupérisme, ce bouquin qui est un bouquin très inspiré de Saint-Simon et de Fourier, et qui était un bouquin quasiment, on pourrait presque dire aujourd'hui, fondateur du socialisme à la française de cette époque-là. Et il s'est brouillé avec Napoléon III lorsqu'il est ce Napoléon III, avec Louis-Napoléon Bonaparte, quand il est devenu Napoléon III. Il s'est fait sacré empereur. Il est devenu un des premiers opposants à l'Empire, si bien que Napoléon III l'a envoyé en exil. On envoyait en exil en Afrique du Nord à cette époque-là les opposants. Lui, on ne l'a pas envoyé si loin parce qu'il était très très connu, d'une part, et il était malade. Et Napoléon III s'est dit que s'il venait à mourir en Afrique du Nord, ça créerait un problème politique insurmontable, donc il l'a envoyé en exil, mais en Espagne. Donc juste à la porte à côté, on pouvait le rapatrier si les choses tournaient mal pour lui. Et puis là, sa santé s'est dégradée, il a vu le médecin du camp auquel il était détenu, qui lui a dit, écoutez, moi, je vais faire une demande, je ne suis pas sûr, je suis même certain qu'elle sera refusée, vous envoyez prendre les eaux dans les Vosges, à Contrexéville, cette eau-là devrait vous être bénéfique. Voilà comment Louis Bouloumier, donc ce journaliste et avocat très très réputé, est arrivé à Contrexéville, a pris les eaux, et puis l'eau de Contrex n'a pas fait grand-chose, le médecin thermal de Contrex a dit, notre eau est un peu pour rien pour vous. C'est aller voir plutôt, il y a une source dans le bled à côté, là, une source que les paysans m'ont dit que peut-être que pour vous, ça pourra. Allez-y. Il est allé dans ce village de Vittel qui était vraiment, excusez-moi l'expression, mais le trou du cul du monde à cette époque-là, et il a bu de l'eau de la source de Jérémois, et il a senti que ça faisait un peu de bien, donc il a continué à Contrexéville, sa cure d'eau de Vittel. Il est reparti en exil. L'année suivante, nouvelle demande pour venir prendre les eaux de Contrexéville, acceptée par Napoléon III. Il vient toujours encadré par deux gendarmes et il est allé à Contrexéville. Il n'y avait pas d'hôtel à Vittel. Hein. Il est allé à Contrexéville faire sa cure d'eau de Vittel. Et il a été guéri. Et Louis Bouloumier a juré que cette eau et ses bienfaits seraient mis à la disposition de toutes celles et tous ceux qui en auraient besoin, quelle que soit leur origine, leur condition, riche, pauvre, peu importe. C'était sa manière à lui de mettre en pratique ses idées généreuses, sont entre guillemets socialistes. Donc ce personnage m'a passionné parce que ça a été la philosophie de la famille Bouloumier jusqu'à ce que Nestlé, par une offre publique d'achat très très inamicale en 1992,
c'est récent,
ça a duré un siècle et demi, hein. L'aventure ne s'est terminée qu'en 1992, jusqu'à ce que Nestlé mette le grappin sur Vittel et dehors tous ceux qui avaient ces idées généreuses et face de Vittel, on en parlait tout à l'heure, l'outil mis à disposition de spéculateurs, de gens qui ne veulent faire que du fric pour leurs actions. Donc, c'est ça aujourd'hui. Donc, ce personnage m'intéressait. Et puis, dans Cantate de Cristal, autre personnage qui m'a passionné, c'est M. de Fontenay. Rien à voir avec Mme de Fontenay, la dame au grand chapeau, mais de la même manière que Alphonse Sitter a existé, que Louis Bouloumi a existé, M. de Fontenay, dont je parle, a existé. Il était le patron de Baccarat, et lui aussi était très très imprégné de fourriériste et de saint-simonisme, mais il a créé à Baccarat tout un système de protection sociale, lutte contre les accidents de travail, contre les maladies professionnelles, création d'écoles, de centres d'apprentis, régime de retraite. À cette époque-là, c'était révolutionnaire, régime de retraite. Et c'était à tel point que lorsque, en 1867, Napoléon III est venu inaugurer l'exposition universelle à Paris. Il y avait un stand absolument prestigieux de Baccarat. Les cristalliers de Baccarat avaient réalisé un kiosque de 3,50 m de haut, entièrement en cristal. Napoléon III était stupéfait, ébloui par cette technicité, ce savoir-faire, ce talent. Il a donc félicité M. de Fontenay, qui était là à la tête de la délégation d'ouvriers présents à Paris. Et M. de Fontenay a répondu à Napoléon III, vous savez, oui, ça, d'accord, c'est vous, bien sûr. Mais pour moi, c'est important. C'est pas tellement ça. C'est que mes ouvriers soient heureux, les plus heureux possibles. C'est ça le sens de ma vie d'industriel. J'éprouve le besoin aujourd'hui, en 2012, de rappeler que c'est possible, que ce patronat-là est possible, et qu'il est sur une autre planète que celle du patronat qu'on connaît aujourd'hui. qui pratique exactement l'inverse. Donc voilà, c'est...
Donc, aucun de ces trois personnages-là n'est lorrain.
Aucun n'est lorrain. Mais non, aucun n'est lorrain.
C'est ça la richesse de la Lorraine. C'est une terre de métissage, on accueille.
Mais Christophe, on aurait des dirigeants politiques, nationaux, lorrains. On n'organisait pas des charters pour renvoyer les gens chez eux, on ne fait pas la guerre aux Roms.
Et dans les mines, c'était pareil, on jouait partout.
On a su intégrer en Lorraine. Les Polonais. On a su intégrer les Polonais, les Italiens, les Marocains. Bref, on a intégré les Espagnols, les Portugais. On a su intégrer toutes ces populations. Oui. Sans que ça pose le moindre problème.
Mais tant qu'il y a du travail, tout le monde s'aime. Quand il y en a un peu moins, c'est difficile.
Le festival du cinéma italien aujourd'hui, il est à Villerue, il n'est pas...
Ah oui, ouais. Mais je suis entièrement d'accord.
Il n'est pas Romorantin. Donc, il y a cet exemple que donne la Lorraine d'ouverture et d'intégration et d'acceptation de toutes les différences. C'est ça qui fait la richesse et la force de la Lorraine.
Frédéric, on parlait de Russie avec Élise tout à l'heure, mais votre personnage de Blanche, elle aussi, elle découvrirait la Russie.
Oui, parce qu'elle part en Russie, pour résumer un petit peu, Blanche, c'est une femme qui a tout dans la vie pour être heureuse, c'est une artiste, elle est peintre, elle peint très bien, elle est douée, et elle vit comme une bonne bourgeoise à Nancy, elle a de l'argent, elle a une belle maison, elle a un mari qui l'aime passionnément, ce qui n'est pas pour lui déplaire. Elle a une fille qui est adorable et qui marche sur ses traces, sur ses pas. Et puis, un jour, son mari rencontre un homme un peu scrupuleux qui a pris le pari avec des amis à lui. De le ruiner. Et donc, il y parvient et Blanche et son mari se retrouvent ruinés, pas du jour au lendemain, mais enfin presque. Et lui va se suicider, ne supporte plus ce déshonneur, cette impression d'avoir gâché non seulement sa vie à lui, mais la vie de sa femme et de sa fille. Et elle se retrouve sans rien. Donc, elle s'enfuit à Paris, chez sa sœur, qui elle aussi vit très confortablement, son mari étant haut fonctionnaire au Quai d'Orsay. Et puis elle cherche ce qu'elle pourrait faire après une longue période de dépression, où ça ne va pas du tout, où elle se remet en cause. Et un jour, elle est contactée par Pierre Hatt, qui est le patron donc, de la maison Hatt à Pont-à-Mousson, le patron de cette fameuse maison de papier mâché. Au début, évidemment, elle ne veut pas y retourner. Ça lui rappelle trop de mauvais souvenirs. Et puis, elle finit par accepter quand même ce poste d'artiste décoratrice chez Hatt à Pont-à-Mousson. Et là, elle va découvrir donc, un univers qui lui est complètement étranger. Et elle va se lier d'amitié avec des ouvriers de la Tata, puisque c'était le nom de la fabrique de papier mâché. Et Pierre Hatt, qui la prend sous son aile, c'était un patron très... très social, c'était vraiment comme un père de famille. Il va lui confier une mission de créer toute une collection de meubles et d'objets d'art pour une grande famille russe. Et c'est ce qui va l'amener à Saint-Pétersbourg. Donc elle part à Saint-Pétersbourg, elle va découvrir cette famille, elle va découvrir la culture russe, et c'est là qu'elle va réapprendre à aimer. Or, pourquoi la Russie? Tout simplement parce que j'adore la Russie. J'adore la culture russe, la musique, l'histoire de Russie, vraiment tout ce qui se réfère à la Russie. Et donc voilà, j'ai tenu absolument à ce que la Russie figure dans mon roman, en espérant que s'il y a une suite, elle se passera totalement en Russie. Et m'obligera à aller là-bas pour mener mes recherches. Et en fait, c'est ça l'objectif, c'est d'aller en Russie, à Novgorod, entre Saint-Pétersbourg et Moscou. Voilà, donc ça, c'est vraiment... la Russie, pour moi, c'est le coup de cœur. C'est vraiment le
thème du déracinement, c'est aussi quelque chose qui est présent, finalement, dans la culture, dans l'esprit lorrain.
Oui, les Lorrains, je crois, ont eu l'habitude depuis très très longtemps de s'exiler, de partir loin.
On a évoqué ceux qui ont été poussés à ça par les conflits, effectivement.
Oui, oui, oui. On trouve des Lorrains partout en Europe. On en trouve en Roumanie, beaucoup. On en trouve dans tous ces pays d'Europe de l'Est. Ils se sont très bien implantés.
Aux US aussi.
On en trouve partout. Et les Lorrains sont des gens qui n'ont pas peur de se mouiller, de partir et d'affronter d'autres lieux, de s'implanter ailleurs. On n'est pas seulement des gens qui se... contrairement à ce qu'on croit, qui se terront chez eux, qui regardent derrière le rideau, comme j'ai déjà entendu.
Oui, parce qu'on parlait tout à l'heure d'autosuffisance possible, c'est pas pour ça qu'il faut vivre enfermé sur soi-même.
Non, non, je pense que ce sont aussi des gens curieux qui ont envie de savoir ce qui se passe ailleurs. Et qui n'hésite pas. À l'époque, j'ai l'impression qu'il fut un temps, on voyageait énormément, on n'hésitait pas, et pourtant il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de moyen de locomotion comme maintenant, mais on partait, on faisait ses bagages et on n'hésitait pas à partir loin pour découvrir ce qui se faisait.
C'est le cas de l'abbé Voirneau d'ailleurs.
Ah ben l'abbé Voirneau, lui, qui pourtant, malgré une santé chancelante, était accueilli à bras ouverts en Belgique pour donner des conférences sur l'apiculture, et il n'a pas hésité aussi à partir en Algérie, à partir très loin pour vanter les mérites de sa nouvelle ruche, la ruche cubique, la ruche Voirneau. Donc les Lorrains sont des gens courageux. Courageux.
Ça vous convient ça? Des gens courageux.
Et
tout à
curieux.
Fait. Tout à fait. Un peu têtu, mais il faut aussi.
Il faut.
Déterminé, je dirais.
Très bien.
et pour une phrase de à propos sur le sujet qui vient d'être évoqué, les Lorrains, leur pays, c'était toujours la Lorraine, mais c'était toujours l'Europe.
Ils ont Charlemagne, on regarde.
Mais c'est Charlemagne.
Ben oui.
Ça a commencé avec Charlemagne. Leur pays, c'est oui le cœur battant de leur culture, c'est la Lorraine telle qu'on la connaît. Mais c'était tout de même l'Empire de Charlemagne, et puis ça a été le Saint-Empire romain germanique dont ils ont été les alliés premiers, d'ailleurs. Hein.
C'est pour ça qu'il faut être fier d'être lorrain.
Bien sûr, pas seulement allié militaire, mais allié aussi par l'union matrimoniale.
D'ailleurs, Éric Marchal, qui était avec nous hier, son roman commence justement avec l'armée lorraine qui est en train de combattre les Turcs en Hongrie.
Mais bien sûr, et Éric l'a très très bien expliqué hier, que les Lorrains n'ont pas hésité une seconde à cette époque-là à aller prêter main forte à l'empereur d'Autriche, qui avait des difficultés contre les Turcs. Et c'est d'ailleurs le duc de Lorraine qui, à cette époque-là, Charles V, qui a été le grand vainqueur contre l'Empire ottoman. Et la maison impériale d'Autriche a toujours été reconnaissante à Charles V et à la maison de Lorraine de ce coup de main. Donc, le Lorrain, il est européen, il est voyageur européen.
Bah, non, n'empêche que c'est la petite fille de Léopold qui est devenue Marie-Antoinette.
Marie-Antoinette,
hein. C'était
oui.
La petite fille de Léopold, on a donné quelques reines. Hein.
Oui, et c'est la monarchie française qui a coupé la tête à la française.
Hélas, oui. Hélas.
La Lorraine.
Oui.
Est-ce que ces Lorrains européens sont favorables à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne maintenant, alors?
Oui, bien sûr.
On vient de parler de cette opposition frontale.
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, parce que comme je l'ai dit, les Lorrains sont favorables à toutes les intégrations dans la mesure où elles se font de manière équitable.
Hein, faut pas aller trop vite, c'est tout.
Bon, ben voilà, bon, il est bien évident. Alors là, on est dans un domaine qui n'est plus tout à fait le nôtre, mais on a intégré la Grèce, alors que la Grèce, on savait que la Grèce était en faillite depuis un siècle et demi, et aujourd'hui, on en gère le problème. Et puis un siècle et demi était en faillite. Hein, moi, je suis allé en Grèce, je n'ai pas vu un seul Grec qui m'ait dit avoir payé ses impôts. Pas un seul. C'est à ce point que, ma surprise, quand je suis descendu de l'avion, j'ai vu la banlieue d'Athènes, toute la banlieue était en construction. Tous les immeubles étaient en construction. Il y avait des échafaudages partout, des fers à béton qui dépassaient au deuxième étage, troisième étage, pas terminé. Et je dis à la guide, mais s'il y a une dynamique dans le bâtiment chez vous, c'est étonnant. Elle m'a répondu, mais non, ne croyez pas ça. Ils sont comme ça depuis 20 ans, ils sont encore comme ça pour 30 ans, parce que tant qu'un immeuble n'est pas terminé, il n'est pas imposable.
C'est la même chose en Turquie.
Donc on ne termine rien du tout.
On habite les étages inférieurs, oui. Et on ne finit jamais la maison.
Mais non, comme ça, on ne paye pas d'impôts. Donc voilà, c'est fait partie. Donc oui, intégrer, intégrer le... Nous n'oublions pas tout de même que la Turquie est un pays qui, par la culture, est proche de la culture lorraine. Les ducs de Lorraine ont toujours été très favorables à l'éducation du peuple. Contrairement à Richelieu, tu parlais de Richelieu tout à l'heure, oui. Richelieu, lui, avait écrit dans son testament politique...
Tuer les tous.
Testament politique de Richelieu, 1642, l'éducation du peuple est de nature à ruiner le commerce, ruiner les armées, ouais, donc ruiner le pays. Autrement dit, pour qu'un pays soit facilement gouvernable, il faut que le peuple soit un peuple inculte. C'est ce qui, bon, ça s'est transmis, hein, on a encore vécu ça il n'y a pas longtemps. Donc, alors que les ducs de Lorraine ont de tout temps développé les écoles et l'éducation du peuple. Je disais, la femme de Lorraine était la seule capable de signer le contrat de mariage de son mari. Or, la Turquie a été le premier État d'Europe
à donner le droit de vote aux femmes.
Un quart de siècle avant la France.
Ouais. Nous, on était dans les derches. Hein.
Donc, nous avons des leçons à prendre des Turcs et surtout pas aller ailleurs.
C'est vrai qu'on voit, à travers tout ce que vous nous racontez, la richesse finalement de cette région incroyable, à la fois sur le plan historique, culturel, patrimonial, humain aussi, hein, finalement. On le disait en préambule, malgré tout ça, il y a un déficit d'image. Est-ce que vous, les écrivains, vous êtes un peu, pour reprendre un personnage d'Élise, des colporteurs finalement de l'image de la Lorraine?
On essaye, on fait de notre mieux. On n'est peut-être pas toujours entendu, mais je sais que dans la presse en région parisienne, là où j'étais dans le groupe Bayard Presse, chaque fois qu'on avait les réunions du comité de rédaction, j'avais toujours une phrase qui commençait par « Eh ben, chez nous en Lorraine !» Et j'avais automatiquement un copain qui me faisait casque à pointe. Je peux vous dire que ça... je l'avais mauvaise, hein. C'est tenace, oui. Mais on essaye, oui, des colporteurs et de leur dire « Mais c'est pas vrai qu'il fait pas beau en Lorraine. Il pleut aujourd'hui, mais on en avait besoin, la terre avait soif. Venez un peu par chez nous, vous verrez les beaux étés que nous pouvons avoir. Il y a autant d'ensoleillement, si ce n'est plus qu'à Paris. » C'est pas vrai que c'est tout gris, même s'il y a eu des aciéries. Il y a de belles forêts. On a à toujours à justifier, à raconter, et on essaie de le faire. Et nos livres, ils contribuent.
Il suffit de prendre le train de Nancy à Remiremont et on voit des paysages absolument fabuleux.
C'est fabuleux, mais oui.
Et puis le cœur du Lorrain, mais certainement plus au paysage qui se voit. Parce qu'il est cette ouverture dont on parlait tout à l'heure, cette générosité, cet accueil.
Voilà. Tu te sens VRP de la Lorraine, toi ?
Oui. Mm. Ah oui, oui, moi je ne m'aime plus, il paraît que j'en ai une petite, je ne m'aime plus au service de mon pays. Mm. Et j'essaie de propager tout ce qu'on vient d'évoquer, là. Hein. La culture, le patrimoine, l'être lorrain, la générosité, l'intégration. C'est tout ça que j'essaie de mettre dans mes livres. Oui, je me sens ambassadeur de la Lorraine. Bon, pas seulement, parce que j'ai un intervenant qui se passe en Bretagne. Mais... C'est peut-être parce qu'on est des Celtes tous les deux, donc ancrés dans notre celtisme. Mais bon, ce sont des. Ce qu'on exprime, c'est pas particulier, j'allais presque dire. Ce sont des valeurs, des sentiments universels. Mais on aimerait bien que ce soit davantage reconnu chez nous.
C'est bien parce que Lorrain, ça rime avec humain.
Oui.
Voilà.
Frédéric, vous vous sentez VRP, ambassadrice?
Oui, moi je me sens, je suis très fière de parler de ma région, je suis très fière de parler de la Lorraine, je suis très fière de
parler... Même quand vous parlez des grands criminels...
Ah oui, ça ne me gêne pas, mais des grands criminels, il y en a partout, il n'y en a pas qu'en Lorraine, mais en Lorraine, il faut dire qu'on en a eu quelques-uns qui
ont
étaient
largement
fameux,
des frites de la chronique.
Qui ont dépassé les frontières largement de la région, commencé par le curé du Ruf dans les années 50, qui a été leur total, et puis... Évidemment, Simone Weber, qui aura marqué aussi son temps. Donc, on sait se distinguer dans tous les domaines, y compris celui-là.
Dans l'inventivité.
Donc, les meilleurs partout.
On est créatif, voilà, quel que soit le domaine où on
ça, vous donne un outil, vous faites n'importe quoi avec, c'est formidable.
Voilà, donc, ça fait partie aussi de notre culture, hein. Donc, on peut pas, il n'y a pas que des choses belles, roses. Il y a aussi le revers de la médaille. Et bon, on a eu aussi nos grands criminels, c'est vrai. Mais non, je suis fière d'être lorraine, d'être ambassadrice. Mais bon, je dirais aussi que je suis un peu universelle parce que aussi tout m'intéresse, les autres cultures, les autres, l'histoire des autres pays. Donc il faut voilà, dire j'aime cette curiosité qui soit pas seulement, j'aime être curieuse de tout.